Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des SOC et pour discuter de ce sujet, nous recevons Cyril Barthélémy, qui est le PDG d'Intrinsec.
Bonjour.
Fabien Pouget, qui est responsable des SOC Sogeti et Capgemini.
Bonjour.
Vladimir Kola, qui représente le SOC NatXP.
Bonjour.
Et pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Christophe Renard.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Vladimir, un SOC dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est une très très bonne question parce qu'en fait j'ai l'impression que tout le monde a une définition un petit peu différente. Alors nous, notre définition, c'est de dire que c'est en gros tout ce qui est lié à la sécurité opérationnelle par opposition à la gouvernance, mais pas uniquement la détection et la réponse à incident. Donc dedans, tu peux retrouver tout ce qui est exploitation de solutions de sécurité, veille, cybersurveillance, test d'intrusion, sensibilisation, etc., analyse de malware, reverse, tout ça. Ce qui parfois correspond un peu au périmètre du CSIRT, enfin du CERT du CSIRT, ce qui fait que suivant les organisations, tu as un périmètre qui est un peu qui est pris par les deux organisations.
Cyril, des choses à ajouter là-dessus ?
Ouais, je crois qu'on a tous des vues un peu différentes. Nous, on le fait plutôt orienté, très focalisé supervision. Donc, on distingue tous les process d'exploitation de la sécurité de la supervision. Donc, on permet de séparer un peu les responsabilités. Et donc, on les focalise beaucoup sur l'anticipation, la prévention, la détection jusqu'à la réponse. Mais après, les autres process, on les sépare de l'activité que nous, on range sous le terme de centre opérationnel.
Fabien ?
Je pense que déjà, le gros a été dit. Il y a une définition qui est pas mal, qui est dans un document du MITRE, qui est sorti en 2014, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est les 10 bonnes pratiques d'un SOC. Ils définissent un SOC comme une équipe composé d'analystes de sécurité qui est organisé pour détecter, analyser, répondre et rapporter des incidents de sécurité. Donc globalement, ça s'appuie, c'est ce qui vient d'être dit, hein, sur des équipements de sécurité assez variés qui peuvent être des sondes, des sandbox, des SIEM, etc., etc. Il y a des données contextuelles qui peuvent aussi alimenter tout ça, et puis il y a les données externes. Donc tout ce qui a été évoqué sur la partie vulnérabilité, méthode d'attaque, etc., pour alimenter aussi la partie supervision. Mais je pense qu'on est à peu près tous... Après, le problème, c'est que le périmètre est assez mouvant suivant les personnes, et comme en général un SOC s'intègre dans un environnement, il y a déjà des briques qui existent. Donc en fait, le SOC a tendance à s'adapter plutôt aux briques existantes, et en général, c'est très rare d'arriver avec un SOC, avec l'ensemble des briques préinstallé, et il y a toujours une part d'adaptation par rapport à ce qui existe, quoi. Donc les frontières entre le traitement d'incidents, etc., sont toujours, ou la veille, etc., ça s'adapte un petit peu au périmètre existant, quoi.
Puis ça se fait un peu de manière croissante aussi. Il prend en maturité petit à petit, il va étendre un peu ses fonctions, ses process. Tu descends rarement un énorme bloc de process et de fonctions diverses. Ça se fait un peu par petits pas, quoi, si tu veux.
Tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Pour moi, les SOC, c'est toujours une sorte d'amélioration continue. Donc, en général, tu commences plutôt petit, humble, et puis après, tu commences à grossir, à améliorer un peu, augmenter avec différents types de journaux, différents types de supervision, de détection, puis tu commences à augmenter un peu le périmètre progressivement par rapport à ce que tu observes, et pour essayer d'être de plus en plus efficace, mais sans vouloir trop faire d'un coup, parce que sinon, ça, en général, ça marche rarement.
Et au fait, SOC, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est qui a le meilleur accent en anglais, là ?
Security Operation Center.
D'accord. Alors, on a déjà fait un épisode sur les CERT. Donc, j'invite nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur les CERT à écouter cet épisode. Mais en gros, quelles sont les relations ou les principales différences ou relations qu'il peut y avoir entre SOC et CERT ?
En théorie, le SOC, c'est vrai que c'est plutôt sécurité opérationnelle, éventuellement analyse et qualification des incidents de sécurité. Et c'est à ce moment-là que souvent le CSIRT intervient sur la partie analyse et qualification des éléments de sécurité, puis ensuite tout ce qui est expertise, donc tout ce qui est réactif, proactif et gestion de la sécurité. Donc le SOC est un peu plus sur la partie vraiment opérationnelle, donc tout ce qui est collecte, supervision, analyse des logs. Et ça peut aller, c'est notre cas en tout cas, jusque donc à l'analyse et à la qualification des événements de sécurité, voire à l'intervention et à la réponse à incidents.
Souvent, on est aussi de les CERT, c'est souvent ceux qui ont le plus de contact avec l'externe, aussi bien avec les victimes, donc pour la partie réponse, qu'avec des tiers, parce que l'idée du CERT, c'est de participer un petit peu à la communauté, on va dire des équipes sécurité. Donc, il peut y avoir des informations entrantes du CERT vers le SOC. Par rapport à ce qui peut être veille, par rapport à ce qui peut être signalement, que lui remontrer via cette équipe CERT des signalements, ou ça peut être aussi sortant, c'est-à-dire par rapport à des observations que le SOC fait, éventuellement communiquer vers l'extérieur et partager de l'information sur des incidents ou des tendances, etc.
Et sur des SOC aujourd'hui, vous qui en fournissez, vous pensez que, enfin, vous arrivez encore à vendre du SOC simplement, sans vendre tout ce qui est les sondes, tout ce qui est le service de réponse, tout ce qui serait un paquet Managed Security Services? Ça se vend encore séparément ou c'est quelque chose qui vient dans un bundle plus important?
Ouais, je crois que ça vient graduellement, en fait. Complètement séparé, ça a pas de sens. Enfin, moi, je vous rejoins, nous, le CERT, on l'utilise comme un niveau 3 pour la réponse à incident, et puis il est dans une boucle où effectivement il y a de l'entrant et du sortant, mais ça devient vite un besoin. Ça devient vite un besoin. Après, ça se descend rarement d'un coup de la même manière, mais ça fait partie d'un package assez général.
Après, ça dépend aussi beaucoup du profil des clients. Il y a déjà des clients qui peuvent avoir des équipes de traitement d'incident, parce que aller traiter l'incident, si tu es dans une multinationale avec des postes à l'étranger, etc., ça peut être assez compliqué des fois d'investiguer, de récupérer les machines. Et donc, ça peut être des équipes dédiées côté client. Donc, le SOC, il est obligé de s'intégrer par rapport à l'existant. Des fois, tu peux avoir des clients qui partent, disons, qui ont un peu moins d'existants, donc qui ont potentiellement moins d'équipes de sécurité. Donc, le SOC aussi fournit cette partie-là, c'est-à-dire essayer d'accompagner le client à traiter l'incident, lui proposer des plans de remédiation. C'est quand même assez modulaire par rapport au client. T'en as certains qui ont déjà des choses et puis d'autres qui en ont un peu moins, donc t'es obligé un peu de t'adapter pour à la fin obtenir quand même un service qui soit assez complet, parce qu'on n'a peut-être pas évoqué complètement les services, mais tout ce qui est entre la partie analyse, détection et la partie ensuite réponse à incident, il faut quand même que t'aies une chaîne qui soit assez complète chez dans l'entreprise ou le client que tu vas servir.
Alors pourquoi les entreprises ont besoin des services d'un SOC ?
Tu as une caractéristique, moi je trouve, qui le définit assez bien, vous me direz, mais tu as une démarche assez générale d'avoir empilé des produits de sécurité à gauche, à droite. Au final, les gens, au bout d'un moment, n'ont pas plus de visibilité sur ce qui se passe chez eux, ils sont aveugles, si tu leur demandes. Qu'est-ce qui se passe en matière d'événements de sécurité ou quand ils ont une question un peu particulière sur tel volume d'activité ou telle typologie d'incident, ils n'ont pas d'éléments de réponse. Il y a soit une incapacité à exploiter la fonction sécurité du boîtier, d'un ou plusieurs boîtiers, soit à en tirer une information générale. Et cette fonction-là, c'est le SOC, c'est ça, c'est une espèce de tour de contrôle, un élément de visualisation pour comprendre ce qui se passe sur un système d'information. Donc ça capte des événements et ça en sort une information, un bruit de fond, et puis de ça, ça fait gagner en visibilité. Je trouve que c'est souvent un point de démarrage dans les réflexions que de dire on a besoin de gagner en maturité et en visibilité sur ce qui se passe en termes d'événements de sécurité sur un périmètre donné. C'est pas forcément tout le SI d'ailleurs.
Donc gagner en visibilité, Fabien.
Bah ça rejoint un petit peu ce que disait Cyril, mais les entreprises, globalement, elles ont probablement déjà des procédures organisationnelles, des dispositifs de protection, et puis à un moment donné, il faut qu'elles s'appuient sur des faits, des événements. Donc, Cyril utilisait le terme aveugle, je pense que c'est le bon, c'est-à-dire que tant que tu ne travailles pas sur des événements factuels, tu as du mal derrière à savoir ce qui se passe dans ton réseau, savoir où sont les problèmes. C'est potentiellement des problèmes de sécurité, mais ça peut être aussi des dysfonctionnements ou des anomalies ou des choses mal configurées, des non-conformités, etc. Donc ça peut révéler aussi tout un tas de choses. La gouvernance, elle a besoin quand même de faits aussi pour prendre des décisions. C'est-à-dire que quand tu dois investir quelques millions d'euros dans des projets de sécurité, etc., il faut que tu mettes des priorités, que tu saches un petit peu où sont tes forces et tes faiblesses. Donc, plutôt que de s'orienter un petit peu sur les on-dit ou ce que tu peux voir dans la presse, aussi s'appuyer sur des faits bêtes et méchants, pragmatiques de ton réseau, des chiffres, c'est quelque chose qui est assez... je pense utile pour guider toute la partie gouvernance et puis la partie après comment orienter la protection aussi efficacement.
Ça rejoint un peu le. Enfin, si tu continues sur les sujets de gouvernance, les gens partent de leurs enjeux, ils ont identifié des risques. De ça, on essaie de sortir des objectifs de détection. Le SOC, il commence à travailler de manière assez active à cet endroit-là en se posant. Des questions du type est-ce que j'ai les bonnes capacités pour détecter ce que je cherche à identifier pour limiter mes risques? Et cette même capacité de détection, elle te donne une capacité de réponse quoi. Et pour des trucs, soit des trucs compliqués, soit des choses très bêtes. Mais tu prends la masse de ce qui se passe en incident vraiment basique, des cryptos, des choses comme ça, des configurations par défaut, elles te donnent pas assez de journalisation pour essayer d'identifier les choses ou les chemins complets de passage des éléments techniques. Donc les démarches de constitution d'un SOC, tu les prends bien comme un truc et organisationnel et technique, ça te fait réfléchir à de quoi j'ai besoin comme information, qu'est-ce que je veux en faire, et puis comment je vais en tirer une forme de valeur. Quand on parlait de visualisation tout à l'heure, c'est la notion de situation, quoi. C'est dans quelle situation je suis et comment je prends mes décisions derrière.
Ouais, je vais faire mon Nicolas qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, mais je pense qu'aussi ça part d'un gros constat d'échec vis-à-vis de la sécurité. C'est que depuis des années, on essaie de faire de l'architecture à l'état de l'art avec de la segmentation, de la défense en profondeur. On empile des boîtes, que ce soit des firewalls, des IPS, des proxys, etc., qui sont plus ou moins bien gérées, mais qui deviennent vraiment complexes. On fait du endpoint, de l'antivirus, etc. Et puis au final, on se rend compte que les configurations sont pas forcément bien optimisées. Comme le disait très très bien Cyril, on manque totalement de visibilité sur son réseau. En plus, avec tout ce qui est appelé les fameuses transformations digitales, même si le terme est pas tout à fait juste, mais la surface d'attaque devient gigantesque. L'entreprise est totalement éclatée entre du cloud, de l'interne, du bring your own device, etc. Enfin, et puis les attaquants sont de mieux en mieux organisés aussi. Ce qui fait que depuis quelques années, on voit vraiment revenir le SOC entre guillemets en force. Alors que j'ai l'impression que depuis quelques années, l'humain était un peu oublié. On misait plutôt sur les boîtes, les appliances, et que depuis quelques années, on commence à se rendre compte que sans l'humain, finalement, la sécurité ça marche pas, et qu'on a besoin d'analystes, de personnes capables d'analyser, de corréler les logs et d'être de qualifier les incidents de sécurité.
Et déjà, ça fait un peu, enfin, moi, ce que je dis de temps en temps, et ça rejoint complètement ce que tu viens de dire, c'est que, une des fonctions du SOC, c'est d'essayer d'apporter un peu, la fonction que tu vas retrouver sur la datasheet des produits que tu achètes. C'est-à-dire, le truc te vend, plus ou moins du rêve à te dire, ça va rendre, tel service pour protéger ton SI. Mais si tu le poses dans une baie et t'as juste penché tes câbles et t'as mis du courant, ça va pas te l'apporter. Si tu rajoutes ta couche de SOC avec tes process et tes bonhommes, ça, là, tu peux commencer à penser que ça va te sortir quelque chose, sous réserve que techniquement ça sert. Et puis c'est aussi tu vois, sur le changement de paradigme à dire, on arrête de croire uniquement à un modèle château fort et puis on shift vers d'autres modèles et on accepte le côté, je vais avoir une intrusion ou je vais avoir un incident. C'est cette capacité-là qui te permet de te dire je l'accepte en partie pour me mettre dans une posture où je suis en capacité de détecter et de réagir. Tu peux pas faire ce changement de paradigme et donc mieux gérer tes budgets en matière de défense si tu te mets pas dans une posture à observer ce qui se passe.
Ouais, surtout qu'aujourd'hui tu peux plus bloquer toutes les attaques, malheureusement, mais tu dois essayer de les détecter au plus tôt et de limiter leurs effets et puis d'agir, quoi, de répondre à l'incident.
Alors, quels sont les différents types de SOC? Est-ce qu'on peut parler des SOC internes, des SOC externes?
Oui, tu as les SOC internes, donc internes à l'entreprise, et ensuite donc SOC externes, ou appelé aussi manager, où là tu sous-traites tout ou partie des différentes fonctionnalités du SOC.
Chez nous, on a trois grands types de SOC. On a ceux qui sont euh, qui sont complètement dédiés au client. En fait, on le fournit tel quel, et puis après, c'est le client qui le manage, c'est-à-dire qu'on lui fournit simplement le, la brique. Et puis derrière, c'est lui qui s'en occupe. Il y a la partie, on le fournit au client, et puis en même temps, on le gère pour lui. Et puis, il y a la partie complètement plutôt mutualisée, c'est-à-dire qu'on... alors, totalement ou partiellement, c'est-à-dire que les personnels sont plutôt chez nous pour superviser, ou partiellement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un mix, c'est-à-dire des équipes qui sont à la fois chez nous et chez le client pour alors c'est le fameux niveau 1, 2, 3, etc. chez les analystes.
Cyril ?
Après, ouais, c'est sur les modèles de niveau 1, niveau 2, niveau 3, selon les personnes ou selon les tailles de SOC, c'est là où tu vas peut-être trouver des petites variations, c'est-à-dire t'as pas forcément des SOC où le N1, le N2, le N3 est extrêmement séparé. T'as, selon les maturités ou leur taille, des gens qui portent différents niveaux. Mais après, sur les modèles qu'on a évoqués, ouais, ça se couvre. Tu retrouves ces déploiements-là en orga ou en technique.
Et est-ce qu'il y a différents types de SOC pour les petites et pour les grandes entreprises ou est-ce que c'est la même chose?
C'est deux faits un peu différents, ne serait-ce que par le budget et puis par les enjeux. Souvent des engagements de service qui sont un peu variants. Il y a un temps où on avait des espèces de fonctions SOC où on faisait de la supervision un peu non continue, on produisait des rapports qui étaient dans des logiques plutôt hebdo ou mensuelles, c'était quelques années. Et puis, on a basculé plutôt sur une fonction continue. On l'a pas dit, mais le SOC, il a plutôt une fonction continue en termes de supervision. Et tu as encore certaines PME qui expriment des besoins, qui veulent avoir cette visibilité-là, mais qui veulent des fonctions non continues de supervision. Après, de fait, entre une grande entreprise et une PME, tu vas retrouver les mêmes différences d'enjeux que pour n'importe quel autre projet, à savoir le SI éclaté, les moyens différents qui se retrouvent dans ce qu'ils achètent ou dans ce qu'ils implémentent.
Ce qui change peut-être entre les deux, c'est simplement le périmètre, parce que dans une grande entreprise, c'est assez compliqué pour avoir, on va dire, la vision complète, parce que c'est souvent découpé par filiales, etc. Donc, le fait que le SOC ait la vision archi complète de tous les recoins, de tous les systèmes, c'est souvent idyllique. Dans une PME, tu peux arriver plus facilement à avoir, on va dire, le périmètre complet.
Mais alors justement, on voit bien que dans le SOC, il y a des équipes, des analystes, les fameux N1, N2, N3. Mais en termes d'infrastructure, qu'est-ce que ça représente? C'est juste un SIEM avec des équipes derrière ou est-ce que c'est plus que ça?
Il y a un peu plus. Tu as une partie qui est un peu, enfin, que ça soit externe ou interne, tu as une partie organisation. Mais à la limite, comme une DSI ou un infogérant, donc il lui faut des trucs de ticketing, il lui faut quelque chose pour suivre l'information sur le SI ou les configurations. Éventuellement, il va avoir des outils qui sont plutôt orga pour lui. On a des plateformes de capitalisation, des plateformes qui servent à gérer les menaces ou les marqueurs. Et puis après, le SIEM, enfin nous, de notre point de vue, c'est plutôt ce qu'on a l'air de constater un peu partout, mais le SIEM, c'est une espèce de pierre angulaire dans ton dispositif, quoi. C'est l'endroit où tu vas avoir envie, pas le SIEM ou une plateforme qui sert à manipuler des données un peu en masse, mais c'est un endroit où on va avoir envie de centraliser pas mal d'informations pour la manipuler. Mais si on se limite sur la fonction SOC, pour une partie de ce qu'on en disait tout à l'heure sur la brique plutôt supervision de sécurité, il va utiliser des capteurs au sens générique. Peut-être des capteurs de sécurité type un IDS, un scanner de vulnérabilité, une sandbox, ou ça peut être des capteurs qui font partie d'un autre soft, c'est-à-dire le module de journalisation d'un Active Directory. On peut considérer que c'est un capteur comme une source d'information pour un SOC. Et pour le prendre à ces deux niveaux-là, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ensemble des solutions que tu exploites dans un SOC, tu as des solutions en propre, pures, qui te servent quasi exclusivement pour le SOC. Et puis, tu as des choses que tu vas vouloir exploiter, mettre à profit parce qu'elles t'apportent de l'information qui ont de la valeur, qui était éventuellement inexploitée ou pas configurée. Et elles te font gagner en visibilité et tu les fais converger vers ton SIEM ensuite.
Ouais, et puis encore une fois, c'est dépendant de la brique que tu fais porter au SOC. Si tu es uniquement sur la partie donc détection, c'est-à-dire gestion, analyse des logs, détection des événements de sécurité, effectivement, CIEM et tout ce qui est outil de ticketing, ce sera quasiment suffisant. Mais après, si tu fais également de la prévention et de la réaction, donc tu vas utiliser tous les outils classiques, tout ce qui te permet de faire de la veille, de faire des scans de vuln, de gérer des équipements de sécurité, des tests d'intrusion, du forensic, etc., du sandboxing par exemple pour faire du forensic, et tous ces outils-là qui te seront utiles donc pour la prévention et la réaction.
Ce qui est important parmi les outils aussi, c'est la partie, mais c'est évoqué par Cyril, c'est la partie capitalisation sur les règles de supervision ou de détection. Parce qu'au final, c'est ça globalement le cœur du SOC. C'est tout le savoir-faire que tu vas acquérir en adaptant, en améliorant en continu les règles de supervision, parce qu'en général, elles sont rarement hyper génériques, donc tu es obligé après de les adapter au contexte, de les affiner au fil du temps. Et c'est-à-dire que c'est ces données-là qui sont les plus importantes. Si on dérive sur les règles de détection, il y a aussi les problématiques de marquage, c'est-à-dire savoir d'où elles viennent, comment elles sont, éventuellement si elles sont classifiées, etc. Donc la source aussi de l'information, c'est-à-dire que quand quelqu'un t'a donné une règle de détection, est-ce que tu as le droit de la partager, de la redistribuer. Donc on va dire que t'as une base de capitalisation avec un ensemble de métadonnées qui doit être assez complet et assez riche à maintenir, et ça peut être assez lourd aussi à entretenir, ce genre de choses.
Ça peut faire partie aussi de définition des cas d'usage avec les clients du SOC, justement, où tu définis en amont les menaces vis-à-vis desquelles tu veux te protéger. Et de là, tu définis donc toutes les règles de détection adaptées aux besoins du client.
C'est ça. Et tu dois les décliner un tout petit peu quand même derrière. Et donc oui. Tout ça, c'est quand même un savoir-faire qu'il faut maintenir, quoi.
Et du coup, tous ces outils, il faut les intégrer soi-même à chaque fois, ou il y a des plateformes de SOC qu'on peut installer, je prends la boîte et j'ai tout sur l'étagère?
Tu as les deux choix. C'est que nous, on a fait le choix d'investir dans l'homme, dans l'humain, et d'investir dans donc des développeurs, ce qui fait qu'on est parti sur de l'Elasticsearch, enfin ELK, et Logstash, avec le développement de notre propre solution, avec la séparation de la partie collecte, donc la partie SIEM, et la partie corrélation analyse des logs, donc la partie SEM. Ça fait un SIEM, mais séparé en deux, quoi.
Sans parler même de marque ou de produit, t'as quand même, une des choses importantes, c'est quand même de maîtriser, enfin c'est comme tous les outils de sécurité d'ailleurs, mais c'est vraiment les maîtriser de bout en bout, c'est-à-dire que quand les logs vont être produits, si tu maîtrises pas les logs, si tu maîtrises pas comment ils sont parsés, comment ils sont visualisés, derrière l'analyste, il va avoir du mal à les interpréter. Donc il faut quand même maîtriser au maximum la chaîne pour être sûr derrière que les analystes fassent une interprétation correcte des alertes qui vont monter.
Ça, c'est l'intérêt de construire sa propre solution, justement,
basée sur des standards. Plus tu la maîtrises, mieux c'est.
Oui.
Alors justement, la transition est toute trouvée pour la prochaine question. On parlait d'analyste, donc quels sont les différents métiers qu'on va retrouver dans un SOC?
Alors encore une fois, ça va dépendre finalement des briques que tu définis dans le SOC, mais si on parle de la partie détection d'incidents de sécurité, ça va être des analystes. Mais ce qu'on appelle analystes, en gros, c'est-à-dire des experts en sécurité capables de bien manipuler les outils, d'avoir une bonne culture de la sécurité, être capable de détecter les incidents de sécurité pour cette partie-là en tout cas.
Ouais, après, je pense que ça dépend ça c'est vraiment le poste type, enfin assez central. Après, je pense que ça dépend un peu des tailles et des déploiements. Enfin, nous, on l'a vu petit à petit. Ça fait, on pratique ça depuis 4 ans à peu près. Vraiment sous ce terme-là, sous cet angle-là. Et effectivement, t'as des socs où t'as cette partie-là, et puis t'en as d'autres où t'as besoin de commencer à introduire plutôt des architectes. Ou alors c'est intéressant d'avoir un consultant parce qu'il va faire plus le lien entre les enjeux métiers, leur déclinaison, et finalement arriver à mieux traduire l'objectif du SOC. Tu vas compter dans une approche plus service, tu vas te retrouver avec des gens qui sont in fine assez proches des métiers d'infogérance, type des services delivery manager ou des contract manager. Et puis à l'autre bout, tu vas retrouver des responders ou des DevOps. J'imagine chez toi, Vlad, ça doit être un peu comme ça aussi si vous développez
oui,
vos
tout à
outils.
Fait, oui.
Nous, on a ça par endroit, on a des outils sur étagère, enfin du code, et puis il y a des choses qu'on développe par nous-mêmes, et on a un équilibre sur certaines parties entre des analystes et des DevOps qui alimentent, qui personnalisent les outils avec des cycles assez courts, quoi, tu vois, il n'y a pas de logique à publier à 6 mois, mais qui améliore ça un peu à la semaine, quoi.
Ouais. Après, du fait de notre organisation un peu particulière, d'avoir un peu tout regroupé sous le terme de CyberSoc, c'est que on essaie d'avoir déjà des passionnés et qui n'ont pas qu'un seul rôle, c'est-à-dire que les analystes font aussi parfois des audits, font aussi de la veille, ce qui fait que déjà ça rend le travail un peu plus intéressant et puis ça leur permet d'être plus pertinents dans chacun des domaines où ils interviennent. C'est-à-dire que celui qui à la fois fait des audits sait finalement comment les alertes sont remontées, comment les archives sont montées et donc est plus pertinent dans les audits. Tout comme quand il est sur la partie détection d'incident, comme il a fait de l'audit, il sait mieux corréler et analyser les événements et les alertes qui sont remontées.
Et des fois, tu mets des petites nuances aussi sur les analystes, c'est-à-dire que c'est les fameux niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un niveau d'analyste où ce que tu attends, c'est qu'il soit très réactif, c'est-à-dire qu'il ne rate pas une alerte dans les temps quand c'est des alertes les plus urgentes ou des événements les plus urgents. Après, tu as des analystes qui prennent peut-être un peu plus le temps d'exploiter au maximum l'ensemble des journaux, enfin l'ensemble des données qu'ils ont à disposition via le SOC pour essayer d'enrichir un peu, de comprendre un peu ce qui s'est passé, etc., par rapport aux données contextuelles, par rapport aux autres logs, etc. Et puis après, tu peux avoir les analystes, on va dire, qui vont au-delà des données qui sont disponibles dans le SOC, c'est vraiment de l'investigation, et là, tu rentres dans l'analyse de disque, le reverse, etc. Puis il peut y avoir différentes granularités puis qui correspondent aussi à différents niveaux techniques, différentes spécialités que tu peux retrouver chez les analystes.
Oui, je ne sais même plus d'ailleurs si on appelle ça les analystes, mais quand on fait effectivement de la partie réponse à incident ou c'est même du post-mortem avec de l'inforensique, effectivement là je ne les appelle plus des analystes. Effectivement, il y a plein de rôles différents. Après, ça dépend des fonctions que tu leur donnes, suivant ce qu'on a dit au tout début de ce que couvrait un SOC.
Après, l'intérêt des analystes au niveau d'un SOC, c'est quand même que les compétences techniques sont assez variées entre les capacités d'analyse réseau, les capacités d'analyse système. Enfin, c'est quand même un spectre qui est assez intéressant et assez large.
Et des passionnés.
Et il faut être passionné, tout à fait, parce que ça te permet aussi de voir tout un tas de choses. Mais un des principes fondamentaux pour l'analyse, c'est quand même d'être curieux et de se poser toujours les questions. Parce qu'à partir du moment où il ne se pose plus de questions, globalement, le SOC, il a un peu du mal à fonctionner. Parce que quand il voit quelque chose de bizarre, s'il passe trop vite dessus, il saura jamais si c'était parce qu'il connaissait pas techniquement le problème ou si c'était parce qu'il y avait un problème de sécurité. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui aiment bien gratter, qui sont curieux pour que ça marche.
Ouais, c'est vrai que t'as un mindset comme pour des équipes de pentest, t'attends de la technicité, mais t'attends aussi un état d'esprit particulier dans un SOC il peut y avoir des points communs, mais c'est pas tout à fait la même chose, quoi. T'as un côté un peu limier curieux, là où de l'autre côté, au côté pentest, c'est plus créatif. Bref, t'attends plus de créativité et de curiosité aussi, mais t'as cette composante humaine qui fait que les gens s'orientent plus ou moins vers ces fonctions.
Alors, est-ce que les rôles changent? Tu disais, Vlad, justement que chez toi, un analyste pouvait aussi faire des audits, etc. Ou est-ce que, au contraire, il vaut mieux être hyper spécialisé, faire tout le temps la même chose, de manière à être plus efficace?
Le danger avec le fait de faire tout le temps la même chose, c'est que tu finis par t'ennuyer et vouloir partir. Donc nous, on a trouvé l'intérêt de multiplier entre guillemets les rôles et de faire aux personnes plusieurs choses de façon bien organisée. C'est un petit peu comme je faisais de l'exploitation il y a très longtemps. Il y avait d'un côté le support, d'un côté le delivery. Et ceux qui faisaient le support finissaient par s'ennuyer. Et ceux qui faisaient que mettre en place des infras finissaient par s'ennuyer. Et donc dans une vie passée, j'ai vu le fait de faire les deux en même temps. Donc un peu des deux avec des jours dédiés. Ce qui rendait vraiment le travail beaucoup plus intéressant. Donc moi j'ai ce point de vue-là de dire que ça a coûté vraiment plutôt plus intéressant et qui te permet de mieux t'impliquer, je pense, d'avoir différents rôles et donc de faire à la fois un petit peu de l'analyse de temps en temps, quelques audits type pentest et différentes autres tâches comme ça de ce type-là.
Alors dans les contextes où justement c'est pas ce cas, où les gens doivent faire tout le temps la même chose, comment est-ce qu'on gère ce challenge
qui est de faire en sorte de conserver les gens, de rendre le boulot toujours attractif.
Sur la partie analyse, quand même, comme on disait tout à l'heure, tu as quand même un domaine qui est assez large. Donc, techniquement, quand même, à chaque fois que tu vas commencer à regarder un phénomène dans le réseau, etc., tu vas tout de suite tomber, enfin, tu vas souvent tomber sur des choses qui sont à gratter, à investiguer, à comprendre, à garder, à tester. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement passionnant et puis qui est sans fin. C'est-à-dire, tu lâches un phénomène, tu comprends un phénomène, tu commences à le superviser très proprement. Hop, il y en a un deuxième qui apparaît, etc. Donc, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est assez motivant. Après, je rejoins aussi quand même le point. C'est toujours intéressant aussi de faire l'effort intellectuel, de se dire, superviser, c'est bien, mais je supervise quoi? Donc, se mettre aussi dans la position de l'attaquant, en se disant qu'est-ce qu'il ferait ou qu'est-ce qu'il aurait fait. C'est toujours aussi un exercice qui est utile et intéressant, parce que ça te permet des fois d'aller à l'essentiel et pas de perdre dans des choses de supervision qui sont un petit peu abstraites, ou pour être sûr déjà au moins de superviser les choses évidentes qu'une équipe de pentester ferait de façon naturelle. Tu vois, c'est quand même quelque chose qu'un analyste de SOC doit savoir regarder ou comprendre assez rapidement.
Et est-ce que c'est bien payé quand on travaille dans un SOC? Enfin, les salaires vont de quoi à quoi?
Moi, je peux en parler, mais après, c'est pas ça va de quoi à quoi, parce que nous, on a des salaires qui sont pas liés à ces rôles-là, mais qui sont liés à la fois à l'expérience et on va dire à la croissance de l'ingénieur, parce que enfin, on a surtout des ingénieurs, mais ce qui fait que on est aussi cabinet de conseil. Et les personnes qui réussissent aussi bien et à peu près à âge similaire ont en gros les mêmes salaires. Donc il n'y a pas vraiment de salaire spécifique au SOC. En tout cas chez nous.
Pas mieux.
Ce sont les salaires normaux.
Voilà. Et puis globalement, les salaires dans le domaine de la sécurité sont souvent aussi assez bien payés par rapport à l'IT en général. Donc,
après les expertises.
Oui, par rapport au reste des autres métiers aussi.
Mais l'expertise, il faut voir aussi, c'est l'expertise dur. Est assez rare quand même. C'est assez difficile de trouver sur le marché des bons analystes ou des gens qui ont déjà une bonne expérience dans le domaine.
Ouais, c'est surtout, c'est ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai challenge, quoi. Même au-delà de les garder, c'est juste de trouver des gens tout court. Si tu laisses de côté, même le côté. Relations humaines, que ça fit avec les équipes, que les personnes adhèrent à ton projet d'entreprise, il y a aussi le fait que le marché est quand même assez asséché, de manière générale et très particulièrement sur le sujet du SOC.
Je pense que c'est surtout ça le problème aussi, que ce soit dans le SOC mais dans la sécurité en général, c'est le recrutement, parce qu'il y a une asymétrie entre l'offre et la demande, ce qui fait qu'on a vraiment du mal juste à embaucher des gens.
Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, ah bah tiens, pourquoi pas bosser dans un SOC? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre de venir bosser dans un SOC?
Travail varié, passionnant, salaire très intéressant, bon relationnel avec les clients et l'impression de servir vraiment à quelque chose.
Ça, c'est le point peut-être le plus important. C'est-à-dire que quand tu vas dans un SOC, dans un grand groupe, tu es quand même au cœur de la sécurité du grand groupe. C'est-à-dire, c'est toi qui vas soulever les problèmes, c'est toi qui vas les montrer avec ton analyse, ce que tu vas produire et qui va derrière alimenter les boards de sécurité du groupe, etc. Donc, t'as quand même je pense que les gens qui travaillent dans un SOC, ils ont quand même un rôle névralgique dans la montée en maturité du groupe. Et c'est quand même quelque chose qui est valorisant, enfin, de se dire qu'on fait un travail utile, pour l'avenir de l'entreprise. C'est quand même quelque chose d'important.
Et c'est une opportunité pour des gens qui font de la supervision système ou réseau, qui sont déjà dans du NOC, d'augmenter leur salaire par exemple, ou est-ce que c'est vraiment un métier dans lequel on prend que des spécialistes en sécurité?
Pas forcément, parce que nous on prend aussi des jeunes, donc forcément on doit les former. Donc non, pas forcément tout de suite des experts. On a des experts, puis on a aussi des jeunes qu'on fait monter en compétences.
Par contre, avoir des compétences en réseau ou en système à la base, sans avoir forcément de ligne de sécurité sur son CV, c'est quand même quelque chose d'important, parce que la sécurité, tu peux l'apprendre, tu peux apprendre un peu la façon de voir, etc. Mais si tu n'as pas les bonnes bases quand même en termes techniques, c'est plus difficile. Mais quelqu'un qui a travaillé dans un NOC, oui, forcément, il a déjà normalement les bonnes bases.
Donc, on a parlé des challenges humains. Est-ce qu'il y a des challenges du point de vue légal?
Ne pas poster sur Twitter tout ce que tu as trouvé avec ton SOC.
Le SOC, il a quand même un cœur, c'est quand même névralgique, c'est-à-dire que c'est lui qui voit passer l'ensemble des journaux, des événements de l'entreprise. C'est lui qui centralise l'ensemble des incidents de sécurité. Donc, il a quand même une sensibilité assez importante, ce qui fait d'ailleurs que il y a un référentiel qui existe par l'ANSI, le référentiel P10, prestataire de détection, où en fait l'idée c'est quand même d'avoir une prestation avec un minimum de confiance, c'est-à-dire s'assurer que les gens ne font pas des bêtises avec l'ensemble des journaux qu'ils manipulent, l'ensemble des incidents qu'ils traitent, s'assurer qu'ils les protègent bien, qu'ils ne vont pas les mettre en ligne ou les diffuser à n'importe qui. Donc il y a quand même un peu de responsabilité à avoir par rapport à l'ensemble des données que tu...
Comme dans beaucoup de métiers de la sécurité, c'est avoir de l'éthique et puis respecter un certain niveau de confidentialité.
Est-ce que vous êtes en veille constante aussi sur les technos pour essayer de trouver de nouvelles technos intéressantes, etc.?
Alors, je ne sais pas si dans techno, tu entends aussi technique, type technique d'attaque ou comportement des attaquants, mais si c'est ça, oui, bien sûr. Enfin, forcément, tu dois. C'est un métier. Mais comme dans le métier d'audit, type audit technique pentest, c'est tu dois te tenir à jour quotidiennement. Oui, effectivement, suivre l'actualité, connaître les nouveaux types d'attaques, les nouveaux outils, les traces générées par ces nouveaux outils, etc., pour pouvoir justement les repérer lors de tes analyses.
Et puis à chaque fois que tu as un nouvel usage, enfin, tu peux avoir des problématiques technologiques du type il faut que tu intègres une nouvelle techno ou que tu aies une augmentation massive de volume d'infos qui fait que tu te poses des questions sur comment tu centralises les choses, mais tu as aussi le fait que, ce qu'on disait tout à l'heure, t'es très transverse, t'es très central, donc potentiellement chaque nouvel usage, ça te fait réfléchir à comment tu le supervises, comment tu captes de l'information dessus, et t'as le côté ensuite comment je détecte telle ou telle méthode d'attaque ou pattern d'attaque que je veux repérer. Mais ce côté j'ai tel projet dans l'entreprise qui apparaît d'externaliser ceci, d'utiliser telle application, de changer tel mode opératoire, ça peut t'amener à te poser des questions sur comment est-ce que je vais, par rapport à mes objectifs de détection ou mes enjeux, comment est-ce que je vais réussir à retrouver de l'information à partir de ça. C'est là où tu as besoin de quelque chose d'assez agile ou avoir des profils qui sont un peu... à cheval entre le réseau système et un peu de développement, c'est très utile. Tu gagnes en réactivité.
Et justement, quand le client aujourd'hui migre vers du Office 365 ou du Google App, la messagerie elle est plus chez eux, les documents sont plus chez eux, on peut encore faire du SOC?
Il y a encore des journaux. Après, tu dépends fortement de la qualité des journaux qui te donnent, mais encore faire de la journalisation et récupérer un ensemble de journaux et regarder un ensemble d'événements dessus. Après, tu maîtrises un peu moins les choses, quoi.
Tu maîtrises un peu moins, mais comme tu le disais si bien, effectivement, tu as des journaux, tu as des traces. Je vais pas citer de technologie parce qu'on va pas faire de publicité, mais on a des clients qui utilisent pas forcément de l'Office 365, mais d'autres choses, qui gèrent ton mail et avec lesquels tu as des traces de tous les événements, qui a accédé à quel document, à quel mail, etc. Et après, ça, c'est pas Microsoft qui va le faire pour toi, hein. Donc là, le SOC a un gros intérêt qui est justement de détecter les usages anormaux, enfin les comportements anormaux, ces choses-là.
Et aujourd'hui, vous arrivez à vous plugger sur les journaux des gros du cloud?
La plupart offrent des API pour les récupérer.
Et certains acteurs français même proposent carrément leurs propres outils pour justement analyser ces traces.
Donc finalement, le cloud ne tue pas le SOC?
Ça change un peu le SOC, mais ça ne le tue pas. Enfin, jusqu'au jour où Google et Microsoft feront du SOC intégré, là...
Bon, il y aura toujours des infras.
Ils ne le corréleront pas avec les autres événements de l'entreprise. Ou...
Voilà. Oui, il y aura toujours des infras, des parcs à gérer, à surveiller. Non, tu ne penses pas, Vlad?
Je ne sais pas. Je suis pas devin, je ne suis pas capable de prédire l'avenir. Mais je me dis que si on externalise vraiment tout complètement, je sais pas. Je suis pas sûr qu'à terme, alors peut-être pas tout de suite, hein, pas dans les 10 ans, mais dans les. Si dans 100 ans, 150 ans, t'externalises tout, Regarde le cloud aujourd'hui ou ton endpoint, on en revient presque aux terminaux de quand j'ai démarré l'informatique où tu as un gros serveur centralisé et puis tu as juste un écran avec un clavier et tu utilises la puissance du gros serveur centralisé, ce qui revient un peu au cloud. Je sais pas.
Ça existe, hein. Nous on en a un comme ça. Il y a que des terminaux côté utilisateur, il y a que des terminaux légers. Les serveurs et les postes de travail sont dans une infra virtualisée. T'as quasiment plus rien. Au sens infra dans l'entreprise. Il faut bien t'adapter à ça aussi.
Et en termes d'adaptation, le fait que maintenant l'ANSI soit mis à labelliser et les SOC et les équipes de réponse à incidents, est-ce que ça change l'activité ?
Ça la nettoie.
Ça permet d'avoir un référentiel pour essayer de faire les choses le plus proprement possible. En termes aussi bien d'ailleurs le service hein, pour parce que ça du coup t'as des obligations pour fournir des indicateurs aux clients etc etc donc ça t'oblige à t'assurer que le service est on va dire utile et puis en même temps sur la confiance que tu peux apporter aux clients en termes de cloisonnement de zone de confiance que tu peux avoir dans ton SOC comment tu sépares les rôles d'administration des systèmes des rôles d'analyste etc tout ça apporte ça te permet déjà d'avoir des règles de base qui sont souvent du bon sens d'ailleurs. Et puis ça apporte un peu de confiance aux clients en se disant quand je confie un peu ces bijoux de famille à quelqu'un, il va pas en faire non plus trop n'importe quoi. Donc ça change pas grand-chose, mais ça te force à bien réfléchir à ton architecture et comment tu offres le service au client, comment tu le branches avec le client. Et éventuellement, comment t'administres derrière tout ça.
Oui, même sans être qualifié, sans être qualifié P10, donc pour détection d'intrusion, tu as quand même un référentiel en tant qu'offreur sur lequel tu peux te baser pour monter ton infra et ta solution, et puis en tant que client sur lequel tu peux te baser pour juger ton offreur et évaluer son niveau de maturité et de qualité. Donc ça, c'est vraiment très intéressant.
Ça vise quand même une partie assez spécifique du marché. Tout à l'heure, on posait la question de la différence entre SOC PME, SOC grand groupe. On ne peut pas faire un P10 compliant complet pour une PME nécessairement. Mais après, je suis d'accord avec vous que ça lance quelques bonnes réflexions et ça sanitise un certain nombre de sujets. Mais avoir une infra P10 complète... pour chaque PME, c'est pas à la portée de la bourse de la PME.
Non, P10 complet, pas P10 complet, mais justement, si tu vois que en tant que PME, la société qui te propose un SOC respecte, on va dire, je sais pas, 70-80% du P10, tu peux te dire que c'est quand même pas mal.
Ça donne des bons indicateurs.
Par opposition à une boîte qui irait à l'opposé du P10, bon, là, tu peux te poser les questions.
Ouais, il faut virer le directeur marketing. En fait.
Alors, si vous aviez quelqu'un en face de vous qui souhaite monter un SOC, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil, enfin comme écueil à éviter, voilà.
Parmi les écueils, c'est de se tromper de cible. Donc le SOC, c'est quand même une amélioration permanente continue, à la fois du SOC et à la fois du client pour qu'il monte en compétence. Donc vouloir trop vite choisir un outil, trop vite vouloir trop regarder un peu tout, etc. C'est à mon avis, c'est un peu voué à l'échec. C'est-à-dire qu'il faut arriver à évoluer avec le client et avoir un objectif de résultat aussi, parce que quand tu branches un équipement type SOC et tu commences à regarder des événements de sécurité, ne rien voir dans un réseau, c'est quand même bizarre. Il y a forcément des choses, aussi bien des non-conformités que potentiellement des choses des compromissions, etc. Donc ne rien voir et puis vouloir aller trop vite, c'est quand même de gros écueils qu'il faut éviter.
Alors Cyril, pour toi.
Non mais je rejoins Fabien là, c'est vraiment le côté, ce que je disais tout à l'heure sur les petits pas. Alors, moi les cas d'échec qu'on voit en termes de, tu vois, de monter en capacité et puis d'atteindre des objectifs, c'est bien d'être ambitieux, mais il faut y aller au bon rythme. Il faut prendre les basiques et puis faire étape par étape. Il faut, de la même manière que la boîte toute seule, elle va pas résoudre un sujet, il faut aussi se préparer à absorber ce que génère le SOC. Un SOC, ça apporte pas que des réponses, ça apporte du travail en plus pour des exploitants, pour des chefs de projet, pour du métier qui doit repenser certaines choses, etc. Donc il faut avoir les moyens en face de répondre à ce que va générer le SOC. Comme quand on demande un SOC 24/7, il faut être capable de traiter en face. En 24/7, c'est la même logique. Ça, c'est vraiment un point qui me semble important pour les gens qui veulent se lancer dedans, c'est de bien de bien se renseigner sur qu'est-ce que ça implique, de prendre des retours d'expérience dessus pour s'y préparer.
En fait, il faut arriver à maintenir aussi un niveau de un nombre d'alertes qui soit suffisamment enfin humainement en nombre analysable, interprétable, c'est-à-dire faut à la fois que la qualité soit bonne et puis en même temps il faut réduire un peu tout ce qui est incertitude, c'est-à-dire entre la qualité des logs, les activités réseau non bizarres, etc. Donc ça c'est vraiment le travail d'amélioration continue. Il faut viser à maintenir un nombre d'alertes qui soit, on va dire, raisonnable et voire qui se réduit dans le temps. Sinon, enfin, si t'as un nombre linéaire croissant d'alertes, parce que à chaque fois que tu rajoutes des règles, ça produit tout un tas de trucs, de faux positifs, de boues, etc. Ton SOC, il va plus servir à grand chose.
J'en rajouterai deux. C'est privilégier en fait les outils type SIEM aux compétences humaines. Ça, je pense que c'est une grosse erreur. Et un deuxième qui serait de déployer de nouveaux outils plutôt que d'essayer de capitaliser et d'optimiser les outils existants.
Quand tu dis capitaliser, c'est sympathique, mais si moi j'ai un SIEM en place et que c'est pas celui dont mon prestataire a l'habitude, ça va être difficile.
Ah oui, mais ça c'est pas forcément très gênant. Déjà en tant que prestataire, tu peux t'adapter ou t'y former, et puis en plus après tu peux juste alors ça dépend si tu dois interagir directement sur le SIEM, sur ton SIEM, ou si on peut exporter toutes les logs et traces vers le SIEM du SOC, enfin de l'autre SOC. Mais pour moi, c'est pas vraiment une contrainte, ça.
Quand vous regardez dans votre boule de cristal, comment vous voyez l'évolution des SOC dans les années à venir ?
Bon, ils vont quand même rester indispensables, parce que quand tu regardes tu commences à voir des internets, des objets, tu vois qu'il y a... Il suffit juste de regarder à la Fnac, t'as les montres maintenant, t'as les voitures aussi qui communiquent. Enfin, tu vas avoir de plus en plus quand même de systèmes qui vont produire des journaux, qui vont être raccordés d'une façon ou d'une autre au réseau. Donc, le volume de journaux globalement va pas diminuer dans le temps, et tu auras toujours besoin de plus d'intelligence pour les interpréter, pour les analyser, pour les regarder. Donc, je pense pas que le SOC ait plus d'avenir dans les prochaines années, en tout cas.
Non, et puis je pense qu'on l'a vu, en plus, c'était aux assises donc de l'année dernière, cet hiver, où il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de présentations sur le SOC. Le SOC revient à la mode pour plein de raisons. Et comme je disais un petit peu au début, en reprenant l'échec, le fameux échec de Nicolas, la phrase, c'est que je pense que le SOC, à mon avis, va perdurer du fait du constat d'échec que empiler des éléments de sécurité tout seul, ça ne suffit plus, et qu'il faut vraiment gérer la sécurité et analyser les logs et avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur son réseau au sens sécurité, et que ça passe par le SOC. Et que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petites et moyennes entreprises qui commence à avoir une culture sécurité et à se mettre à la sécurité, et donc de faire appel plutôt à des SOC managés, externalisés. Là.
Alors, je sais pas si c'est un constat d'échec. En tout cas, les gens se rendent compte que c'est une brique nécessaire maintenant aussi pour construire la sécurité. Après, la brique quand même de protection, elle reste quand même nécessaire. Je sais pas si c'est un échec.
Sûr,
en tout cas,
sûr.
C'est complémentaire, et les gens s'en rendent compte que t'as besoin de protection, t'as besoin aussi, ça couvre pas 100% des risques. Aussi bien, était obligé d'avoir maintenant une couverture minimale des risques en supervisant un peu ce qui se passe dans le réseau. Mais je parlais pas d'échec quand même.
Est-ce que les SOC, parce que là aujourd'hui il y a pas mal de monde qui se met à faire du SOC, ça coûte quand même assez cher, en particulier d'avoir du personnel en 24/7 qui soit derrière à faire de l'analyse, en particulier niveau 1. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde dans 5 ans ou 10 ans, sachant qu'aujourd'hui on voit se multiplier les acteurs, que à l'échelle internationale les gros traditionnels de la supervision ont aussi une offre SOC. Donc est-ce qu'il risque pas d'y avoir pas mal de gens qui se cassent les dents sur ce domaine?
Si, peut-être, mais comme dans tout marché qui redevient à la mode. C'est comme les 118, la numéro de téléphone, où tout le monde s'est jeté dessus au début, et puis maintenant il en reste que quelques-uns. Enfin, j'exagère un petit peu dans la métaphore, mais oui, je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'acteurs qui vont disparaître, puis qui vont se recréer, et voilà. Enfin.
D'un autre côté, il y a un attrait très très fort, justement pour gagner en visibilité. Donc, je pense que de plus en plus, les entreprises ont besoin des SOC.
Ce qui coûte cher, c'est les incidents, une fois aussi, qui sont faits et puis qui durent dans le temps, etc. Donc les APT, ça a quand même un coût pour la société, qui, enfin pour l'entreprise, qui est quand même énorme. Donc, un incident, ça peut quand même coûter très cher à une société. Alors, elle ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, mais dans les 10 ans qui viennent, elle peut...
Ça vaut peut-être mieux pas le détecter, en fait, dans ce cas-là. Ça coûte moins cher.
Il vaut mieux pas qu'elle le sache. Il y a le principe de l'autruche qui marche pas mal aussi.
C'est la stratégie de Nortel, hein, ils ont fermé.
Non, mais il y a plusieurs exemples dans la presse, oui, les entreprises qui ont subi un peu des APT qui leur ont coûté cher.
Ok, on a fait le tour. Est-ce que vous voulez ajouter des choses pour conclure ?
On embauche.
Pas mieux.
La conclusion habituelle.
Cyril aussi.
Bon, un petit peu.
Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous disons à très très bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.